décryptage.
Aurélien Devernois.
Ce drame, c'est de l'horreur, perpétré par des non-croyants. Ils veulent diviser les chrétiens et les musulmans principalement.
Diviser le Burkina Faso, le but des attaques qui se multiplient ces derniers jours dans le nord du pays, selon ce Burkinabé, venu assister aux obsèques d'un prêtre et de 5 fidèles assassinés dans le village de Dablo dimanche. La communauté catholique de nouveau visée hier dans la région de Waïgouya. 4 personnes ont été tuées lors d'une procession. Alors quelle est la stratégie des groupes armés auteurs de ces attaques? De quels moyens dispose le pays pour y résister? Et comment maintenir l'unité des Burkinabés? Autant de questions que nous nous posons ce soir dans Décryptage. Et avec nous pour tenter de répondre à ces interrogations, Benoît Beuchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire et en sciences politiques à l'Université Paris-Sorbonne, chercheur affilié à l'Institut des mondes africains et auteur de « Manger le pouvoir au Burkina Faso » aux éditions Cartala. Avec nous également par téléphone depuis Bobo Dioulasso, Dramane Konaté, sémiologue, écrivain et socio-analyste burkinabé, bonsoir. Alors nous
bonsoir.
Avons, il y a un petit temps de décalage avec Dramane Konaté. Alors on va tout d'abord revenir sur ces attaques. Elles ont eu lieu à Dablo et à Kayon, des villages du nord du pays. Et elles ont visé des catholiques, mais en avril dernier, c'était une église protestante qui avait été ciblée. Dramane Konaté, comment ces attaques ont-elles été reçues, analysées au Burkina Faso?
Les Burkina Faso. Mais face à l'hydre terroriste, face à ces attaques, ignobles, sont dans les mois, ce qui est normal. Nous sommes humains et surtout que ceux qui ont été tués, massacrés par ces terroristes-là, ce sont des
alors, on a un problème de ligne, monsieur Konaté. Cela coupe beaucoup. Je pense qu'on va vous rappeler dans quelques instants. Je vais poser la même question à Benoît Beuchet. C'est une nouveauté, ce fait qu'il y ait des attaques qui visent des communautés religieuses dans le nord du Burkina Faso.
Alors, il est vrai que si on prend l'histoire contemporaine et récente du Burkina Faso, c'est un phénomène relativement nouveau et qui s'inscrit évidemment dans le développement du terrorisme islamiste à partir de 2014-2015 dans ce pays.
Jusque-là, c'était pas une typologie d'attaque que l'on connaissait. Est-ce que c'était lié à un fonctionnement spécifique de ces régions? Quels équilibres étaient en vigueur, on va dire, jusqu'à ces 3-4 dernières années?
Alors, il faut dire que depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso était un pays où les communautés religieuses vivaient globalement dans une bonne entente, hein, générale. Les représentants des principales religions de ce pays étaient intégrés dans le protocole d'État depuis l'indépendance, assistait à la plupart des cérémonies officielles. Donc on avait une sorte comme ça d'équilibre qui était maintenu bon an mal an, même si des tensions évidemment pouvaient poindre ça et là. J'ajouterai une petite précision, c'est que l'Église catholique et les catholiques qui sont minoritaires au Burkina Faso en termes démographiques constituent une élite politique qui a largement participé à la construction de l'État dans ce pays. Mais ça ne s'est pas fait avec des heurts tout à fait ouverts avec les autres religions, dont l'islam qui est majoritaire dans ce pays.
Alors, on a pu rejoindre Monsieur Konaté, non, toujours pas. Alors, on va continuer avec vous, Monsieur Beuchet. Justement, vous disiez qu'il y avait une forme de logique œcuménique au niveau donc des religions pour les équilibres de pouvoir au Burkina Faso. Est-ce que justement le fait que des attaques visent la communauté catholique, la communauté protestante, mais il y a des imams aussi hein, qui ont été visés ces dernières années. Est-ce que c'est le but selon vous, c'est d'aller remettre en question ces équilibres, d'aller finalement peut-être affaiblir les équilibres régionaux, en particulier dans le nord du pays?
Alors oui, effectivement, l'objectif est clairement celui de la division de ce pays autour de clivages qui sont des clivages entre guillemets identitaires et religieux, les deux allant naturellement souvent ensemble. Et donc, ces attaques, vous l'avez rappelé, visent toutes les confessions religieuses dans ce pays. Hein. Les musulmans ne sont sont pas épargnés, les catholiques ne le sont pas non plus, pas plus que les protestants. Donc clairement, c'est de retourner les uns contre les autres et de profiter aussi d'une situation très particulière que connaît le pays, puisque vous le savez, en 2014, un soulèvement populaire a chassé du pouvoir le président Blaise Compaoré, et donc s'est trouvé dans un état de transition, et on est toujours dans cet état de transition et de relative fragilité du processus de transition. Donc je dirais que le contexte se prêtait particulièrement à ce type d'attaque pour envenimer la situation. Pour répondre à votre autre question, celle de l'intégration des différentes régions du Burkina Faso, je rappellerai que, hormis le plateau central, c'est-à-dire la région de Ouagadougou, toutes les autres zones, il faudrait les comprendre comme des régions de confins, de marge de l'État. Ça, c'est tout à fait évident. Et avec un sentiment qui a pu se développer dans toutes les parties du pays qui sont éloignées de la capitale, que ces parties-là, précisément, sont un peu abandonnées par le pouvoir central et laissées pour compte dans le processus de construction de l'État et de la nation dans ce pays.
Et pourtant, historiquement, par exemple, la région nord, avec la zone de Yatanga, c'est une région qui est historiquement importante dans l'histoire du Burkina Faso et dans la constitution du pays, en tout cas entre le 19e et le 20e siècle.
Oui, alors effectivement, on a plusieurs strates de peuplement dans cette partie du Burkina Faso. Le Yatanga, donc, était un royaume Mossi. Il faut rappeler que les Mossi, pour autant qu'on le sache, sont majoritaires dans ce pays. Ils constituent à peu près 50% de la population. Et ce Yatanga a vu se développer une royauté très puissante qui était aussi puissante et même la grande rivale de la royauté de Ouagadougou. Donc historiquement, elle a joué un rôle extrêmement important. Le Yatanga est une zone intéressante parce que c'est une zone de contact entre précisément les populations qui étaient, comme on disait, alors le terme est impropre, mais animistes, donc les religions dites traditionnelles, et avec l'islam. Un islam qui gagnait justement ces territoires-là par le nord. Et qui était porté, entre autres, par les commerçants sur la route, des routes commerciales importantes d'orientation nord-sud, et puis aussi par des populations nomades ou semi-nomades, précisément, qui étaient, par exemple, des populations d'éleveurs, de pasteurs. Donc on est dans une zone de transition entre la progression historique de l'islam et puis une certaine forme de mise sous contrôle politique très ancienne de l'islam par les cours royales mais aussi, dont celle du Yatanga.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une contestation de cette tradition de gestion du fait islamique dans le nord du pays à travers ces groupes djihadistes que l'on soupçonne de ces attaques puisqu'elles n'ont pas été revendiquées, notamment Ansarul Islam qui a été dirigé pendant lors de sa constitution par un prédicateur qui est originaire de la région du Soum qui s'appelle Malam Ibrahim Diko et qui justement a dans son discours une forte contestation de l'organisation traditionnelle de ces régions, que ce soit au niveau de la tradition maraboutique ou des chefs coutumiers.
Alors effectivement, quand on parlait tout à l'heure d'État, de construction de l'État, il faut voir que tout ça trouve ses racines bien avant la colonisation française. Et on a des logiques étatiques très différentes. Le plateau central avec les royautés Mossi, avec des souverains qui, pour la plupart, étaient et sont encore musulmans, mais qui ont des ministres, ce qu'on appelle les ministres, qui, eux, peuvent adopter d'autres confessions religieuses, dont le catholicisme, par exemple, par la suite, ou le protestantisme, etc. Donc c'est cette vision-là, un petit peu, d'un mélange des religions qui est battue en brèche à travers ces attaques-là, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il faut bien comprendre que l'islam a joué un rôle extrêmement important dans le nord, dans la constitution de pouvoir qui était des émirats. Il y avait des émirats dans le nord du pays qui n'étaient pas inféodés, si je puis me permettre, à ces royaumes Mossi. Donc là, on a des logiques politiques qui peuvent entrer, se heurter. Donc je crois que c'est des éléments historiques qu'il faut bien prendre en compte, de longue durée.
Alors, on a pu rejoindre Draman Konaté au téléphone. Nous étions en train de parler avec Benoît Beuchet du fait qu'il y a dans les groupes radicaux qui sont présents dans le nord du Burkina Faso une contestation de la logique d'organisation traditionnelle de ces régions. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir au Burkina Faso, qu'il y a quelque part une contestation au fond politique et socio-économique de comment fonctionnent ces régions du pays?
Je peux vous dire que j'ai fait partie de la délégation du ministère de la Culture qui a organisé dans le nord du pays au mois de novembre 2018 un colloque national sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Et je vous assure que tous les émirs du nord étaient là, y compris les chefs traditionnels qui étaient là. Donc ensemble, nous avons arrêté un certain nombre de décisions, mais ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'office religieux et les offices traditionnels en tant que tels. Il y a parmi les populations, certes, des radicaux qui sont là et qui veulent imposer l'islam et qui imposent aux enseignants de lire le Coran aux apprenants. Ils font fermer des écoles et tout récemment, ils s'en prennent même aux lieux, aux écoles de convivialité telles que les maquis et les restaurants. Voilà, certainement pour montrer que tout ça, ça ne fait pas partie des pratiques de l'islam.
Alors, selon vous, Monsieur Konaté, selon vous, c'est finalement ces groupes radicaux, des groupes qui importent une vision religieuse et une logique politique qui est complètement extérieure au Burkina Faso ?
Je ne crois pas que ce soit forcément ces groupes radicaux qui se réclament d'un islamisme, j'allais dire, violent. Mais, vous voyez ce qui se passe. Le fait même de tuer des imams, de tuer des prêtres, de tuer des pasteurs, et même des notabilités coutumières qui ont été assassinées par ces gens-là, ça prouve que non, ils n'ont aucune loi et aucune foi. Et récemment, avec ce qui s'est passé, la destruction du symbole de l'icône de Marie, voici des gens, par exemple, qui ne savent pas que la sourate Mariam est le 19e chapitre du saint livre, le Coran. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas le Coran. Donc, pour dire que il y a une confusion totale, je crois peut-être que ce sont des gens qui vivent de prébende et nous savons qu'il y a un trafic qui se mène, qui ne dit pas son nom, qui se mène dans cette zone-là, où les gens cherchent à protéger leurs intérêts, trafic de drogue, et trafic de tabac, trafic de tout ce que vous voulez, même trafic d'armes. Donc, pour dire que ce qui se passe sur le terrain est loin de l'islam en tant que tel, mais plutôt ce sont des brebis galeuses, voilà, qui ont intégré des Burkinabés, pas forcément des gens venus de l'extérieur. Parfois même des Burkinabés sont là puisqu'ils arrivent à localiser facilement les églises, les mosquées et les domiciles des notabilités coutumières.
Alors justement, Monsieur Konaté, justement, pourquoi des Burkinabés sont susceptibles de s'engager dans ce type de groupe ? Qu'est-ce qui les pousse finalement à rejoindre ces groupes extrémistes ?
Oui, je vous parlais tout à l'heure d'une question d'intérêt. Effectivement, quand on a affaire à une jeunesse désœuvrée, à une jeunesse qui est dans l'obscurantisme, c'est vrai que de par le passé, au niveau des Sahel, il y a eu notamment des imams qui prêchaient voilà, la violence. Mais avec, bien sûr, l'intervention des forces de défense et de sécurité, on a pu éradiquer cette idée. Quoi. Mais il se trouve que le Sahel, longtemps, estime que c'est une région qui est restée à elle-même, qui est livrée à elle-même. Il y a beaucoup de jeunes désœuvrés qui sont là, et quand ces extrémistes-là viennent leur proposer juste un peu d'argent, ils s'engagent, voilà, au mépris même de leur vie. Puisque quand ils font ça, ils savent qu'ils vont mourir. Voilà. Mais à partir de là, bon, ils estiment que non, ils iront certainement au paradis, etc.
Oui, vous décrivez voilà. Finalement le mécanisme d'embrigadement qu'on a pu constater déjà dans d'autres pays de la région, que ce soit au Mali, par exemple, voire dans certaines zones du Niger. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez avec Benoît Beuchet. Cette capacité de ces groupes à recruter des jeunes gens, par exemple, dans le nord du Burkina Faso, le fait aussi de mener une contestation, on va dire, avec un étendard religieux, c'est quelque chose qui avait déjà été vu au Burkina Faso dans les décennies qui ont pu s'écouler, ou alors un peu plus loin auparavant ?
Alors, dans les décennies qui viennent de s'écouler, je ne crois pas, c'est pas un phénomène en tout cas qui était saillant et connu. C'est justement, ça a été la grande surprise de la création d'Ansarul Islam, c'est-à-dire de voir un groupe terroriste islamiste burkinabé. Ça, c'était tout de même, je crois, un choc, y compris pour le gouvernement de l'époque, qui ne s'attendait absolument pas à ça. Mais si on remonte bien plus loin dans le temps, et notamment au cours des 18e et 19e siècles, eh bien, et ça, ça concerne pas uniquement le Burkina actuel, mais ce qu'on appelait le djihad pouvait être aussi une façon de s'émanciper vis-à-vis de tutelles, notamment politiques et sociales, qui étaient trop pesantes. C'était conçu comme un moyen d'émancipation. Alors attention, la notion même de djihad, comme partout ailleurs, elle n'était pas considérée d'abord comme une dimension guerrière. C'était un djihad, un effort de purification, de moralisation sur soi-même, mais le djihad armé pouvait aussi répondre à ses volontés d'émancipation. Je crois que ce qu'a dit Monsieur Konaté est très important lorsqu'il utilise le mot jeunesse. Le mot jeunesse, c'est pas simplement un âge, c'est une position dans la société. Quand on est jeune, c'est qu'on n'est pas encore, on n'occupe pas encore des fonctions de responsabilité au sein de la famille, au sein de la société, du monde économique, etc., etc. Donc, on parle déjà d'une certaine marginalisation, d'une certaine exclusion. Il y a aussi le poids de la gérontocratie. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est banal dans ces sociétés subsahariennes, mais je crois que c'est peut-être aussi une manière de s'échapper de cette tutelle gérontocratique, hein, de ces sociétés-là, donc du cercle familial, etc. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a tout un tas de motifs qui se greffent, des frustrations, des revendications économiques, une volonté de trouver une place, de donner un sens à sa vie, d'échapper à des formes de gérontocratie, parfois au poids des autorités coutumières qui restent très importantes aujourd'hui dans la vie sociale et politique du pays, hein. Donc je pense que c'est tout un faisceau d'acteurs très complexes qui jouent pour effectivement expliquer ces phénomènes.
Alors, Dramane Konaté, peut-être que on va pouvoir parler de la fameuse question du vivre ensemble. Est-ce que finalement, pour régler en partie les problèmes que rencontre le Burkina Faso en ce moment, il ne faut pas réinventer la manière d'organiser les sociétés, ou en tout cas d'organiser les pouvoirs dans certaines régions du pays dont, vous le disiez, certaines se sentent un petit peu mises de côté?
Oui, j'ai l'habitude de dire, en pareil, que parce que les crises naissent, les tensions naissent lorsque les valeurs sont bouleversées. Culturellement, les valeurs sont bouleversées. C'est la raison pour laquelle les terroristes ont compris et ont dirigé leurs attaques contre ces forces morales, ces forces religieuses et traditionnelles. Juste pour saper les fondamentaux de la paix, du vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle, à travers ce dialogue interculturel et interreligieux qui a toujours existé au Burkina Faso, il faut le reconnaître, il n'y a jamais eu de conflit communautaire ouvert comme ça entre, j'allais dire, les chrétiens, les musulmans ou les dépositaires des traditions. C'est le contraire. Si vous allez à un mariage musulman, vous y rencontrez des chrétiens qui sont là, naturellement, parce que c'est la même communauté, et vice-versa. Donc, pour dire que le fait de diriger les attaques contre ces forces, ces leaders coutumiers et religieux, cela voudrait dire que c'est comme une sorte de catalyse aux tensions sociales et communautaires. C'est la raison pour laquelle, justement, il faut repartir à la base et rétablir ces valeurs-là de sorte à ce qu'une paix durable s'installe au Burkina Faso. Et je vous parlais de ce colloque-là que nous avons tenu en début novembre 2018. Et justement, les conclusions, au niveau des conclusions, nous sommes tous unanimes à reconnaître qu'il faut promouvoir des valeurs culturelles. Quelles sont ces valeurs culturelles-là? Ce sont notamment l'intégrité, la solidarité, et bien sûr l'hospitalité. Parce qu'il y a une soixantaine d'ethnies au Burkina Faso qui vivaient jusque-là en parfaite symbiose, mais on a vu qu'avec les incursions terroristes, il y a des communautés qui se sont soulevées contre d'autres communautés.
Merci. On va devoir terminer l'émission. Merci beaucoup, Dramane Konaté. Je rappelle que vous êtes sémiologue, écrivain et socio-analyste donc au Burkina Faso. Merci également, Benoît Beuchet, docteur en histoire et en sciences politiques, chercheur affilié à l'Institut des mondes africains et auteur de Manger le pouvoir au Burkina Faso aux éditions Carta. Et puis, merci également à Eleonore Krenik qui a préparé cette émission. Réalisation signée Thibaut Baduel.